Un jongleur, un marionnettiste.
Oui.
Un parasite.
Et toi, dis-toi.
Mille ans d'histoire. Avec Corneille et Racine, dont il était le contemporain, Molière fait partie de la trilogie classique qui a porté la France de Louis XIV au sommet de la littérature de son temps. À ceci près que si les personnages des deux premiers nous paraissent aujourd'hui démodés, ceux de Molière n'ont pas vieilli. L'avarice d'Harpagon, l'hypocrisie de Tartuffe, la misanthropie d'Alceste, la vanité des précieuses ridicules, du bourgeois gentilhomme et des médecins de Molière nous font encore rire parce que nous les rencontrons tous les jours, 3 siècles après la mort de celui qui les a inventés. Voilà pourquoi Molière est encore le plus joué des dramaturges français. Celui aussi qui a le mieux observé tous les vices et les passions des hommes, avant même d'avoir écrit sa première pièce, lorsque bien avant de s'appeler Molière, il était destiné à faire tout autre chose que du théâtre.
Jean, dit Jean-Baptiste, fils de Jean Poquelin, marchand tapissier. Sais-tu que tu devras bien et fidèlement exercer le métier de tapissier? Ne pas enseigner ce métier à une femme, car il est trop grave pour une femme. Ne pas œuvrer avec du fil qui ne soit pas du fil de laine bon et loyal. Ne pas faire œuvre médiocre ou fausse qui puisse être blâmée. Ne pas jurer ou blasphémer le saint nom de Dieu. Ne rien faire dérogeant à ta condition. Connais-tu cela?
Je connais cela.
T'y engages-tu?
Je m'y engage.
Alain Niederst, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre biographie de Molière, publiée chez Perrin, vous rappelez bien sûr sa jeunesse. En fait, on ne sait pas grand-chose de la vie de Molière à cette époque, sinon qu'il est né en 1622 dans une famille bourgeoise, plutôt cossue, et qu'il était effectivement fils, petit-fils, même neveu de tapissier, et destiné à devenir tapissier lui-même.
Absolument. Il était, en effet, dans une famille bourgeoise. Il ne semble pas avoir eu la moindre difficulté avec son père quand il a décidé de faire du théâtre. Ce serait une vision romantique que dire sa vocation a brisé le carcan bourgeois dans lequel il avait grandi. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé.
Son père, qui n'était pas rien, c'est tapissier ordinaire du roi. C'est-à-dire
Absolument.
Qu'en fait, il était en contact avec la cour.
Oui, c'est pas sûr. Parce que, vous savez, c'est le genre de titre qu'on donnait. Comme on dit, il y a beaucoup de gens au XVIIe siècle qui s'appellent conseillers du roi. Ils n'ont jamais mis les pieds à la cour. Mmh. Mais c'est un titre qui glorifiait, enfin qui ennoblissait un petit peu le personnage.
Il y a une chose qui m'a étonné en vous lisant, Alain Niederst, c'est que vous dites qu'au fond, lui-même, Molière, le jeune Molière, Jean-Baptiste Poquelin encore, était pratiquement sans instruction et qu'à 14 ans, il savait à peine lire, écrire et compter.
Semble-t-il, c'est ainsi. Mmh. Et alors, à ce moment-là, ses parents ont décidé de l'envoyer chez les jésuites, ce qui était la meilleure éducation du temps, normalement, et il est donc allé au collège de Clermont à Paris. Alors pourquoi...
Qui est l'actuel lycée Lille-Grand, je crois.
C'est ça, hein, exactement. Ouais. Alors pourquoi, me direz-vous? Pourquoi je pense que la raison est simple, c'est que ça fait partie de l'élévation de la montée d'une famille bourgeoise, si vous voulez, et il était souhaitable que le fils, c'est-à-dire Jean-Baptiste, eût un office. Mmh. Et pour avoir un office, il fallait être licencié en droit. La licence en droit s'obtenait très facilement, ça c'était rien du tout, mais il fallait tout de même un minimum de connaissances, un minimum de culture, rien que pour s'inscrire à l'université, pour avoir la licence en droit. Donc je crois que c'est ça, tout simplement.
Et être avocat, ce qui était aussi...
C'est pour ça qu'ils sont tous avocats, parce que la licence en droit se donnait comme rien.
Alors cela dit, il éprouve de l'intérêt pour le théâtre, je crois que c'est plutôt son oncle maternel qui l'y pousse.
Oui, ou son grand-père, comme on l'a dit.
Mais c'est quoi le théâtre à l'époque, à Alain
Niederst? Il y a différentes sortes de théâtre. On dit toujours, pourquoi serait-ce une légende, après tout, ce n'est pas du tout invraisemblable, que Molière aimait bien traîner sur les ponts près de chez lui, là. Et sur les ponts, alors, il y avait tous les bonimenteurs, les gens qui vendaient, vous savez, des médicaments miracles, ça se fait pratiquement plus maintenant, on ne voit plus beaucoup ça. Des gens qui vendent donc des médicaments miracles, des étoffes, des produits qui viennent de l'Orient, et qui accompagnaient tout ça d'un boniment avec un compère en général. Mmh. Donc c'est une forme de théâtre improvisé, souvent très amusant, très grossier d'ailleurs, très, très obscène, mais pas toujours, mais qui ne reculait pas devant l'obscénité, mais qui amusait évidemment les enfants, les jeunes qui voyaient ça. Ça c'est tout à fait normal.
Et puis à côté de ça, il y avait Hamlet, voilà. J'ai dit, il y a Corneille.
C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs théâtres, Corneille, et à côté de ça, il y a de la haute comédie. Corneille écrit des comédies en vers, il écrit évidemment des grandes tragédies, il y a de la haute comédie, de la grande tragédie, et la cour. Le roi, la reine et Richelieu aiment le théâtre. Il y a des tableaux, on les voit tous les trois, assis l'un à côté de l'autre. Et d'ailleurs, Richelieu lui-même a écrit des pièces de théâtre.
Alors, le jeune Molière est tellement passionné, justement, par le théâtre, qu'en 1643, à l'âge de 21 ans, il décide de renoncer à son métier d'avocat pour créer sa première troupe.
Je ne veux pas être avocat. Cela me répugne. Je hais la chicane. Réfléchis bien. J'ai bien réfléchi. Je serai acteur.
Furent présents en leur personne Germain Clairin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Béjart, Nicolas Bonenfant,
Joe la soupe,
Georges Pinel, Madeleine Béjart, Catherine Dehurlis et Geneviève Béjart. Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comédie, afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre.
Fait et passé à Paris l'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi. Et tous ont signé.
Et c'était un autre extrait du formidable Molière d'Ariane Mnouchkine, la naissance donc de l'illustre théâtre, qui est en fait le nom de la première troupe de Molière, Anna Liederst, parce que c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste Poquelin devient Molière. C'est à ce moment-là qu'il prend le nom. D'où vient ce nom d'ailleurs?
On ne sait pas. Dans mon livre, là, je m'interroge longuement là-dessus. Il y a des tas d'hypothèses qu'on peut faire. Molière veut dire mâchoire. Une fois qu'on a dit ça, c'est comme si on n'avait rien dit. Ça a d'autre part été le nom d'autres écrivains, d'autres personnages du XVIIe siècle, le plus célèbre étant un certain Molière de Sertine. Alors, est-ce par admiration pour lui que Molière se serait amusé à prendre ce nom? Est-ce qu'il a, dans ses tournées dans le Midi, il a peut-être rencontré des villages, ça existe ces villages dans les Cévennes, qui s'appellent Molière, donc s'est-il amusé à se dire seigneur d'un de ces villages qui n'avait pas de seigneur, qui était franc, si je peux dire, en état de franchise, ou bien alors, enfin on peut formuler toutes les hypothèses qu'on veut, mais c'est certain qu'on ne sait pas exactement, mais c'est certain aussi que Poquelin devient Molière, ça fait pas de doute.
Alors il n'est pas le seul, dans l'illustre théâtre, cette première troupe qui comptait je crois une dizaine d'acteurs qui n'avaient aucune espèce d'expérience, on a entendu plusieurs fois le nom de Béjart. Ça, c'est très important.
Madeleine Béjart avait de l'expérience.
Oui.
Et Talmant des Réaux dit que c'est la meilleure actrice de Paris, c'est-à-dire de la France, quoi, pratiquement pour l'époque. Et elle avait de l'expérience. Elle avait été la maîtresse ou la favorite de grands seigneurs. Elle avait une réputation. Donc c'est sans doute elle. Je ne crois pas que ce soit vraiment une légende, je crois que c'est réel. C'est elle, certainement, qui a attiré Molière vers le théâtre. Mmh. Mais il faut reconnaître aussi qu'à l'époque, le théâtre est réhabilité. Dans l'illusion comique, Corneille montre un garçon qui va dans une troupe de théâtre. Son père s'interroge et on lui dit « mais il n'y a pas de quoi, le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes ». C'est-à-dire, il va s'enrichir, vous ne tourmentez pas. Et Richelieu lui-même, comme je vous disais, n'a pas hésité à écrire ou à faire écrire et à corriger la rédaction de pièces de théâtre. Donc le théâtre est devenu... Et c'est pas du tout... je sais bien qu'il y a des hostilités, il y a des gens qui répugnent.
On y reviendra.
Oui, on y reviendra, oui.
Mais cette troupe-là, l'illustre théâtre, c'est plutôt une bande de copains, à part Madeleine Béjart, qui est une actrice. D'ailleurs, tout de suite, ça va faire faillite.
Il y a les Béjart, c'est surtout elle qui a de l'expérience. Sa sœur Geneviève n'est pas bonne à grand-chose, et son frère n'est pas non plus tellement brillant. Les autres, vous avez raison, ce sont des enfants de bonne famille, comme on dit à l'époque, et vous avez raison, oui, c'est un peu une entreprise.
C'est pas moi qui ai raison, c'est vous, parce que je l'ai lu dans votre livre.
Oui, mais je suis content d'approuver les échos de mon livre dans votre bouche. Et cela dit, l'illustré, c'est vrai qu'ils vont faire faillite, que ça va être très mal géré, quoi. Et c'est Madeleine Béjart qui va plus ou moins arranger les choses en les unissant avec la troupe de Dufresne et en leur gagnant la protection du duc d'Épernon. C'est elle qui va rafistoler un peu cette catastrophe.
Oui, parce qu'il y avait de la concurrence à Paris, il y avait deux théâtres qui dominaient le marché, si on peut dire. Le théâtre du Marais et l'hôtel de Bourgogne. Alors eux, ils vont quitter Paris en 1645 pour un périple à travers la France qui va durer plus de 10 ans, 13 ans je crois à peu près. Ils partent en Bretagne retrouver cette fameuse troupe de Dufresne justement, qui est protégée par le duc d'Épernon. Et puis alors ce qu'ils essayent de faire, mais ça ne marche pas, ils essayent de jouer la tragédie. Alors effectivement, Molière aurait vraiment un goût pour la tragédie qui n'a jamais été satisfait. Il joue évidemment du répertoire de l'époque avec des auteurs dont on a oublié totalement le nom, hein, Jean de Rotrou, Tristan l'Hermite, Georges de Scudéry. Il y a Molière, hein, alors. Il y a Corneille, bien sûr. Là, en revanche, il joue beaucoup Corneille.
Il joue beaucoup Corneille. Alors, est-ce que vraiment il mettait la tragédie au-dessus de la comédie? J'en suis pas certain, mais c'est certain qu'il aurait aimé être un grand acteur de tragédie. Et il est certain aussi que tous les contemporains disent, ça même ses ennemis le reconnaissent, qu'il est excellent dans le comique. Et par contre, même ses amis reconnaissent qu'il est nul dans le tragique, qu'il ne sait pas jouer une tragédie. Et d'ailleurs, quand sa troupe reconnue de tous, il ne jouera jamais les grands rôles. Ils joueront des tragédies. Madeleine Béjart jouera des tragédies. Mais lui ne prendra jamais de grand rôle dans les tragédies. Il y renoncera.
Alors, pendant qu'ils jouent, ils essayent de jouer la tragédie devant un public restreint, je suppose, Alain Niders, Molière commence à écrire des petits divertissements, des petites comédies. C'est ça, d'ailleurs, qu'il a écrit en premier.
Oui, il a à peine écrit, hein, qui sont moitié improvisés, il ne faut pas se faire d'illusions. Il devait laisser pas mal de liberté aux acteurs, ils inventaient des cabrioles, ils inventaient des petites choses. Il devait s'amuser autant. D'ailleurs, c'est sans doute une source du succès, ça c'est normal. Quand on voit les gens s'amuser, on a envie de s'amuser avec eux. Il reste toute une série de titres. Il y a La jalousie du barbouillé, qu'on connaît, La valise, il y en a tant qu'on veut, Le grand nigaud de fils, alors, ces textes ont disparu. D'ailleurs, il n'y a peut-être même pas eu, jamais eu de texte vraiment définitif. Simplement des ébauches.
Il y a eu ça Médecin Volant avec l'apparition du personnage de Sganarelle, qu'on trouvera plus tard.
Alors, qui vient de l'italien. C'est une adaptation. Alors, évidemment, c'est là qu'on va tomber sur le problème des plagiats. C'est une adaptation d'une pièce italienne. C'est Medico Volante. Oui, c'est une adaptation d'une comédie italienne que s'amuse à faire Molière. Enfin, que fait Molière.
En fait, c'est plutôt des farces. Hein. Je crois qu'ils font beaucoup de grimaces, beaucoup de gesticulations. Vous dites que, évidemment, on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Vous dites que ça devait ressembler grosso modo au premier film de Chaplin.
Oui, je crois. Je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'épaisseur psychologique. On ne peut pas le demander ça. En revanche, il devait y avoir des trouvailles, une verve comme ça jaillissante. Ça plaît toujours, hein, ça. Même s'il n'y a pas de contenu profond, même si ça ne donne pas à réfléchir, le jaillissement de la verve et de l'improvisation et les gens qui ont l'air d'être aussi heureux que nous de faire leur farce, je crois que ça plaît toujours. Ça.
Alors ces représentations donc de tragédies entrecoupées par des petits divertissements, des petites comédie, ça va durer pendant 8 ans jusqu'en 1653, l'année où la troupe de Molière est appelée dans son château de Pézenas par le prince de Conti.
Monseigneur, monsieur Molière est là.
Il faudra bien me faire rire, monsieur Molière.
L'étourdi ou les contretemps, comédie de Molière. Si le titre est mauvais, nous le changerons.
Mais non,
il est excellent.
La scène est à Messine. Acte 1, scène 1. Lélie. Eh bien.
Lélie, Léandre.
Eh bien, Léandre. Eh bien, il faudra contester. Nous verrons de nous deux.
Qui pourra l'emporter?
Qui pourra l'emporter?
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Molière.
Et alors on a entendu dans cet extrait encore du film de Mnouchkine, L'étourdi, c'est la première grande comédie de Molière, en tout cas celle dont on dispose, Alain Niderst.
Absolument, qui est encore une adaptation d'ailleurs d'une farce italienne, d'une comédie italienne, oui, qui n'est pas vraiment originale, mais alors qui a été en effet, comme vous le disiez, créée à Pézenas devant le prince de Conti.
Alors le prince de Conti qui n'était pas n'importe qui, hein, c'était Armand de Conti, c'était le frère du grand Condé, c'était le quatrième personnage du royaume.
Absolument, il était bossu. Et on l'avait destiné plus ou moins clairement à l'Église. Mais à l'époque, il n'était pas un homme d'Église. Il commandait les troupes françaises dans le Roussillon. Il n'a pas fait beaucoup d'opérations militaires, mais enfin, il n'en est pas plus mal tiré qu'un autre. Il a eu quelques petits succès en Cerdagne, qu'on a célébré évidemment à Pézenas, comme des victoires absolument triomphales. Mais enfin, ça, c'est normal. Oui.
Il a été frondeur, hein, aussi.
Non, il était dans le camp de Mazarin. Là, il a été frondeur au début, vous avez raison. Puis après, il s'est réconcilié avec Mazarin. Il a épousé la nièce de Mazarin. Anne-Marie Martinozzi, et dès lors, il a été fidèle au roi. Enfin, oui, il a eu des avantages, évidemment, en échange. Mmh. Et donc, il faisait à peu près son travail de gouverneur de province. Et c'était un homme très intelligent, plus instruit que ne l'étaient les princes en général à cette époque-là, qui avait soutenu des thèses de théologie. Avant de commander l'armée, donc dans le Midi.
Et puis très libertin aussi. Hein.
Pour les mœurs, il était d'un grand libertinage. Alors il a attrapé la vérole, semble-t-il. Enfin, semble-t-il, c'est sûr qu'il a attrapé la vérole, mais la source n'est peut-être pas absolument certaine, en allant voir les filles à Béziers. C'est ça. Il a un copain qui l'a emmené voir les femmes dans les maisons closes, on peut appeler ça comme ça, de Béziers, et il y a ramené une vérole qu'il a donnée malheureusement à sa pauvre femme, qui n'y était pour rien.
en tout cas, il prend sous sa protection la troupe de Molière qui s'impose donc à la tête de ses comédiens, plus d'ailleurs, ou en tout cas autant comme acteur que comme auteur, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Les comédiens de Molière vouent à leur maître un véritable amour. L'un d'eux, Lagrange, raconte que toutes les tentatives des autres troupes pour les débaucher ont été vaines. Tous les acteurs aimaient le sieur de Molière, leur chef, dit-il. Il joignait à un mérite et une capacité extraordinaire, une honnêteté et une manière engageante qui les obligeaient tous à lui promettre qu'il ne le quitterait jamais, quelques propositions qu'on leur fit et quelques avantages qu'ils puissent trouver ailleurs. Alors Molière lui-même est très attaché à ses acteurs, c'est à eux qu'il pense quand il écrit ses pièces. Il les a tous dans l'esprit quand il compose, affirme un contemporain. Et c'est aussi lui qui les dirige. Plus tard, bien plus tard, dans l'Impromptu de Versailles, une très jolie pièce, d'ailleurs très moderne, où il se met en scène avec sa troupe, Molière expose sa conception du jeu de l'acteur. Il leur demande de ne pas faire ronfler les verres, comme on le fait d'habitude, et de rechercher avant tout le naturel et la vérité. Tâchez donc de bien prendre le caractère de vos rôles, leur dit-il, et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. Alors un acteur d'Assoucy qui joue un temps avec cette troupe et perdit sa fortune d'ailleurs, ne regrette pas de s'être lancé dans l'aventure. Comme un homme, dit-il, n'est jamais pauvre tant qu'il a des amis, ayant Molière comme estimateur et toute la maison des Béjart pour amis, en dépit du diable, je me vis plus riche et plus content que jamais. En dépit du diable, il dit quand même. En effet, au XVIIe, les comédiens ont encore une réputation sulfureuse, même si elle est meilleure qu'avant. Ce sont presque tous des filous, affirme l'écrivain Talmant des Réaux. Une mauvaise réputation entretenue par l'Église. Bossuet, du haut de sa chaire, condamne à l'époque sans appel les actrices. Quelle mère, dit-il, tant soit peu honnête, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théâtre. Au-delà des mots, quand même, ces accusations ont des conséquences sur la vie même des comédiens. Par exemple, une actrice, Mademoiselle Dupin, a accepté d'être marraine d'un enfant. Au baptême, elle cache sa profession au curé, qui finit quand même par l'apprendre et lui écrit une lettre très sévère. L'Église, qui excommunie celle qui, comme vous, monte sur le théâtre, nous a donné des règles pour ne recevoir pas à être parrain les personnes de votre état. En un curé du même genre, l'acteur Brécourt adresse un sonnet bien enlevé. Pasteur, qui nous damnez par vos sermons austères, le sage dit qu'il est des moments pour prier, qu'il est des temps pour rire et d'autres pour pleurer. Pourquoi nous imposer des règles si sévères? Alors ce pauvre Brécourt, au moment de rendre l'âme, pour pouvoir recevoir les saints sacrements, il sera contraint par le prêtre de signer une lettre où il renonce à son métier d'acteur. Peu importe, il en aura bien profité de son vivant.
Un commentaire peut-être sur ces textes, Alain Nider, c'est d'abord peut-être sur la façon dont Molière s'est imposé comme ça, à la tête, au fond, de sa troupe. Comment ça s'est fait?
Je crois que c'était d'abord Madeleine Béjart qui dirigeait réellement la troupe. Puis évidemment, comme il vivait avec elle de façon maritale, si je peux dire, il s'est associé. Et on ne peut pas dire qu'il ait dirigé, ou peu à peu il a dirigé. Mais au départ, c'est Madeleine Béjart et lui qui, ensemble, dirigent la troupe. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'elle est de loin la plus expérimentée, la plus célèbre de la troupe. Puis alors évidemment, je suppose que tous les côtés matériels et financiers, c'est surtout Molière qui devait s'en occuper, je suppose.
Oui, parce qu'à l'époque, en fait, les acteurs partageaient entre eux d'abord leurs difficultés, mais aussi les bénéfices.
C'est ça. Et Molière, au départ, n'avait qu'une part comme les autres. Puis après, comme il écrivait les textes, on lui a donné deux parts. Et quand il a été marié, sa femme a eu également une part, évidemment, ce qui est tout à fait normal.
Et sur la façon dont il concevait le métier d'acteur, on l'a aussi entendu, par exemple, ne pas faire ronfler les verres, essayer de rester naturel.
Il se moque beaucoup, là, c'est à ça que vous avez fait allusion, il se moque beaucoup du jeu de l'hôtel de Bourgogne, du jeu déclamatoire, emphatique. Alors là, vous avez des caricatures qui, évidemment, ont mis à mal l'amour-propre des acteurs de l'hôtel de Bourgogne, et ils s'amusent à montrer comment ils jouent, alors eux, ils déclament. Même quand on dit des secrets, on hurle.
Oui,
on dit, je te dirai quelque chose qu'il ne faut pas répéter, puis on se fait hurler. Alors, Molière s'est amusé à représenter. C'est bien, d'ailleurs, c'est très amusant, ce passage-là.
L'hôtel de Bourgogne, qui sera le concurrent, bien sûr, de la troupe de Molière quand il arrivera à Paris. Alors, il a beaucoup été aussi question du métier, de la façon dont il était perçu dans la France de Louis XIV, qui était un métier méprisé. Pour quelle raison ?
Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est assez compliqué. Parce que des gens comme Anne d'Autriche, qui était très pieuse, la mère du roi, le légat du pape, le cardinal Chigny, n'ont pas hésité à aller au théâtre, à recevoir Molière chez eux. Anne d'Autriche a fait jouer dans ses appartements le mariage
forcé
de Molière.
Ça, c'est quand il était à Paris, mais à l'époque, on n'aime pas beaucoup ces espèces de comédiens vagabonds qui parcourent la France. L'Église ne les aime pas. Ils sont excommuniés, quand même. On l'a entendu.
Oui, mais enfin, l'Église est partagée. Hein. Je vous dis, le légat du pape n'hésite pas à aller voir des représentations théâtrales. Je crois qu'il y a Puis après tout, en Espagne et en Italie, et même dans les États pontificaux, on n'hésite pas à donner des représentations théâtrales. À la cour d'Espagne, ça paraissait une chose tout à fait normale. Et la cour d'Espagne est certainement à la limite plus pieuse que la cour de Paris. Et même dans les États du pape. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'en France, et puis comme je vous disais tout à l'heure, Richelieu, qui était cardinal malgré tout, Louis XIII et la reine n'hésitaient pas à aller aux représentations théâtrales. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le jansénisme, il y a une tendance, c'est le jansénisme qu'il faut incriminer. Ce sont eux, d'ailleurs le prince de Conti est devenu janséniste plus tard, ce sont eux qui se sont déchaînés contre le théâtre. Alors qu'au contraire, les jésuites, après tout, faisaient jouer des comédies dans leurs écoles, quoi, dans leurs collèges. Les adolescents plutôt dans les collèges jésuites jouaient des pièces de théâtre. Les jésuites trouvaient ça très bien.
En tout cas, c'est pas le cas de Conti, vous l'avez dit, Alain Iders, puisque peu de temps après avoir protégé Molière et sa troupe et avoir mené une vie de libertin, eh bien Conti devient à son tour un dévot.
L'état de la foi où je me trouve, l'ordre de la vérité et la loi de la discipline chrétienne condamnent absolument le divertissement des spectacles. Vous précipitez en enfer tous ceux qui vous écoutent et qu'enchantent vos grimaces, qui blasphèment le saint nom de Jésus. Vous êtes des mauvais. Mais nous saurons vous faire taire. Et maintenant, cessez de me barrer le chemin qui mène à mon salut.
Monsieur Molière, dans peu de temps, je serai à Paris. Si vous avez besoin, je vous aiderai.
Comment expliquer, Alain Iders, le changement d'attitude de Conti? Il a protégé Molière, il aimait ses pièces, et soudain, il n'en veut absolument plus à Pézenas.
On peut imaginer une conversion sincère, qui viendrait, comme c'est souvent le cas des conversions, évidemment de la culpabilité. Culpabilité qui peut venir, comme je vous disais tout à l'heure, après toute cette syphilis qu'il a propagée autour de lui, en tout cas à sa femme. Ou bien il a eu des actes de violence, c'était un tempérament... C'est un homme assez compliqué, hein, Conti. On l'a accusé d'avoir tué son secrétaire dans un moment de violence. Alors disons, la cause, ce serait la culpabilité qui mène à l'Église. Mais les contemporains n'ont pas cherché des explications aussi nobles. La plupart des contemporains ont dit « il se convertit par hypocrisie ». Parce que l'Église, les jansénistes, les dévots, représentent un parti fort, et ça va lui donner du pouvoir dans le royaume.
Peut-être ce qui a inspiré Tartuffe, non ?
En tout cas, Don Juan. Ouais. Quand Don Juan, à la fin de la pièce, dit « Combien en ai-je connu qui ont rhabillé leur désordre de jeunesse et qui se sont sauvés à l'abri de la foi ?» Beaucoup, ça a été classique, c'est classique comme interprétation de penser que Molière a voulu faire penser justement à Conti. Mmh.
Alors ça, effectivement, Conti deviendra, quand Molière sera à Paris, un de ses pires adversaires. Alors cela dit, Molière et sa troupe quittent Conti, ils vont un peu traîner encore à Lyon, et avant d'arriver à Paris, en 1658, ils passent par Rouen, et là, ils rencontrent Corneille.
Ils rencontrent les deux Corneille, Pierre et Thomas, les deux frères, et Pierre et Thomas vont tous les deux faire la cour, d'ailleurs à l'actrice la plus belle, semble-t-il, de la troupe de Molière à cette époque-là, Marquise du Parc, qui plus tard, d'ailleurs, sera la maîtresse de Racine. Mmh. Et alors tous les deux, on lui adresse des... Vous savez, c'est les fameux vers de Corneille. Corneille, là, sur Marquise, et tous les deux, donc le Pierre et Thomas. Oh, il y a sûrement une grande part de badinage là-dedans, c'est pas une passion. Enfin, ça fait rien. Tous les deux vont s'amuser à faire des vers pour cette belle Marquise du Parc.
Donc ça, c'est avant, juste avant que Molière parte à Paris. Quelles sont les raisons qui le poussent à rejoindre Paris? Après, c'est quand même énorme, hein, dans sa vie. Ça représente plus de 12 ans d'exil, en quelque sorte. Pourquoi retourne-t-il à Paris?
Bah, c'est malgré tout Paris le centre, hein, il peut espérer paraître à la cour. En tout cas, son retour à Paris a été préparé, hein. Pendant plusieurs mois, il est à Rouen, mais on sait qu'il fait des petits voyages à Paris pour ménager le terrain et pour s'arranger. Donc, pour l'intercesseur, ce n'est évidemment plus Conti, ce sera Monsieur, le frère de Louis XIV, qui prendra la troupe sous sa protection, sans d'ailleurs leur donner un centime. Enfin, il les protégera tout de même, et c'est lui qui présentera Molière au roi.
Alors nous en parlerons demain avec vous, hein, l'arrivée de Molière à Paris et puis jusqu'à sa mort, beaucoup plus tard. Je rappelle que vous êtes l'auteur Alain Niederst d'une biographie de Molière, donc publiée chez Perrin. Et puis parmi les publications les plus récentes, il y a un petit livre sur Molière destiné aux jeunes lecteurs, mais c'est une bonne occasion pour eux de découvrir Molière. Un livre de Brigitte Labbé et Michel Puech, publié chez Milan Jeunesse. Vous avez pu entendre des extraits du film Molière, écrit et réalisé par Ryan Nouchkine avec Philippe Cobert dans le rôle de Molière. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Patrice Gélinet.